Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Jocelyne Moussaou Pondé.
Washington salue l'accord conclu hier à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 sur le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Sur son compte X, Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain, estime que c'est une étape cruciale vers un accord de paix global en RDC. À Kinshasa, la montée du franc congolais face au dollar américain inquiète de plus en plus. Alors que le taux de change baisse chaque jour, les prix des produits alimentaires, eux, continuent de grimper. La situation déstabilise les ménages. C'est la journée internationale de la canne blanche aujourd'hui 15 octobre. Cette journée vise à sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontées les personnes déficientes visuelles, à promouvoir leurs droits. À cette occasion, nous recevons Grégoire Kazadikantou, président provincial du CERIAC, le centre d'encadrement, de réhabilitation et d'intégration des aveugles du Kassai central. Bonjour à tous. Les États-Unis d'Amérique saluent l'accord conclu hier entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 à Doha, portant sur un mécanisme de surveillance et des vérifications du cessez-le-feu permanent au nord et au sud Kivu sous la médiation du Qatar. Dans un message publié hier mardi sur son compte X, Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain, déclare « Cette étape cruciale rapproche la RDC et l'AFC M23 d'un accord de paix global et favorise la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. Le mécanisme garantira le respect des accords, renforcera la confiance et réduira les tensions sur le terrain, précise-t-il. La signature de l'accord sur le mécanisme des surveillances du cessez-le-feu intervient alors que les pourparlers viennent de reprendre dans un contexte marqué par la recrudescence des combats entre les FARDC, appuyés par les Wazalendo, et l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Martial Papimukeba nous explique le rôle et la composition de ce mécanisme.
Ce mécanisme s'inscrit dans la continuité de la déclaration des principes de Doha signée le 19 juillet 2025. Il réunit les gouvernements congolais, l'AFC M23, la CIRGL via son mécanisme conjoint de vérification élargie ainsi que la MONUSCO. Sa mission est de superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent, d'enquêter sur les violations présumées et de prendre les mesures nécessaires avec les parties concernées pour prévenir toute reprise des hostilités. Selon l'accord, or, la MONUSCO assurera la coordination logistique et la première réunion de ce mécanisme se tiendra 7 jours après sa constitution. Cette avancée intervient alors que FARDC et AFC M23 s'affrontent encore dans plusieurs zones du nord et sud Kivu, s'accusant mutuellement des violations du cessez-le-feu. Depuis quelques semaines, l'AFC M23 exige notamment la signature formelle du cessez-le-feu permanent, la libération des prisonniers et les retour des réfugiés congolais installés dans les pays voisins, condition essentielle pour un dialogue direct avec les gouvernements. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Asseoir une nouvelle dynamique de l'opposition pour contribuer à la construction de la paix en RDC, c'est l'objectif que poursuit le conclave de l'opposition politique congolaise réunie depuis hier mardi à Nairobi sur invitation du président de la République honoraire, Joseph Kabila. Selon le secrétaire général du parti d'Augustin Matata Ponyo, Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, les opposants refusent d'être assujettis aux belligérants et veulent faire entendre leurs revendications à travers le processus de dialogue de Doha soutenu par Washington. Voilà pourquoi il peaufine des stratégies dont les réflexions se clôturent aujourd'hui mercredi. Plusieurs opposants ont fait leur déplacement dans la capitale kényane. D'autres, par contre, comme Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound ou Moïse Katumbi, ne se sont pas déplacés compte tenu de leurs agendas surchargés, d'après le secrétaire général de LGD, Franklin Tchamala, joint par Jeff Ngoy.
Un conclave, pourquoi? Simplement parce que dans le cadre du processus de construction de la paix qui est en route dans notre pays, les belligérants en interne ont mis en place les dispositifs de Doha dans le cadre duquel ils dialoguent avec le concours des partenaires américains. Un dispositif de dialogue entre la RDC et le Rwanda a aussi été mis en place à Washington. L'opposition politique était jusqu'ici dans une une posture de réflexion en vue de construire sa contribution dans le redimensionnement de ce processus qui est important pour notre pays. Alors, nous ne pouvions pas les faire de façon dispersée. Nous avons donc été conviés autour du premier d'entre nous, c'est-à-dire le président honoraire.
C'est un non-événement et c'est une opposition en perte de vitesse. Telle est la réaction de Steve Mbikai à cette réunion d'une frange de l'opposition à Nairobi autour de l'ancien président Joseph Kabila. Ces députés nationaux et cadres de l'Union sacrée de la nation regrettent le fait que ses opposants, au lieu de se préparer pour affronter les prochaines élections, se préparent plutôt pour le dialogue. C'est parce qu'ils sont déboussolés, conclut-il. On écoute Steve Mbikai, député national et cadre de l'Union sacrée de la nation, qui a été joint par Guy Maté.
Je constate que l'opposition est pratiquement inexistante sur le terrain. L'Union sacrée au pays n'a rien à faire. Alors c'est de leur droit si autour du président Kabila, ils tentent de récolter des morceaux. Mais c'est qu'ils doivent savoir que la politique s'est fait à l'intérieur. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont se réunir à l'étranger et puis réussir à influencer le terrain ici. Tout ce qui est vrai est que l'opposition est en perte de vitesse, déboussolée et s'organise pour des dialogues. Elle devait plutôt s'organiser pour s'implanter, organiser le peuple et puis chercher à affronter les prochaines joutes électorales. Voilà qu'il parle de Doha, il parle de Washington, il parle de dialogues. Ce qui veut dire que ils sont déboussolés. Nous, au niveau de l'Union sacrée, nous pensons que c'est pas tellement un événement. Vous savez, quand quelqu'un se noie, il peut tenir à n'importe quoi pour exister. C'est justement ce qu'on a de faire.
Ouvrons à présent le chapitre économie. Loin de rassurer, la forte appréciation du franc congolais sur le marché face au dollar américain inquiète et déstabilise les calculs dans plusieurs ménages. Plusieurs Quinois se plaignent en effet de constater que le taux du dollar baisse chaque jour à la cité, mais les biens sur les marchés sont plutôt en hausse. Rachel Kalombe.
Sur le terrain, de nombreuses personnes rencontrées lancent un cri d'alarme au gouvernement pour revoir cette instabilité financière. C'est le cas de ces femmes ménagères qui disent ne pas sentir l'impact de cette baisse des taux sur les biens alimentaires.
La baisse du taux des dollars, ça n'a pas vraiment un impact positif pour nous, la population, parce que jusque-là, on n'a pas baissé le prix des denrées alimentaires, qu'on paye toujours les histoires aux anciens prix.
D'autres accusent même le gouvernement de ne pas faire assez pour mettre fin à la spéculation.
Les denrées alimentaires, les prix n'ont pas baissé, le carburant, les transports. Nous vivons une situation qui est venue encore rendre la tâche difficile et lorsque le dollar était à 28.
C'est une appréciation des façades. Le gouvernement a du pain sur la planche. On attend la baisse des prix sur les marchés. C'est de là qu'on va se rendre compte que réellement les francs congolais s'est apprécié.
D'où l'appel de Epengé, de la Mouka.
La BCC doit maintenant stopper et stabiliser cette spirale de la baisse incontrôlée et continue du dollar afin de protéger les pouvoirs d'achat des Congolais.
Même appel d'un avocat qui demande au gouvernement de travailler pour conformer les prix sur les marchés à cette appréciation monétaire.
Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Lubumba, a réuni lundi les responsables des secteurs de transport, de l'économie et des finances, ainsi que les représentants des chauffeurs de la ville. Le but de cette rencontre était de définir la ligne à suivre afin d'établir une nouvelle grille tarifaire équilibrée qui prenne en compte la situation économique actuelle marquée par l'appréciation du franc congolais et la baisse des prix des produits pétroliers. Cette rencontre, c'est en prévision de la réunion de la commission de grille tarifaire qui se tiendra bientôt pour fixer le nouveau barème des prix de transport à Kinshasa. Babel Pongo Massimango.
Pour l'autorité urbaine, il n'est pas acceptable que les prix de transport soient fixés selon le bon vouloir des propriétaires de véhicules et ne suivent pas la baisse des prix de carburant. Le gouverneur a ainsi appelé la commission à se pencher sur cette question afin de remettre de l'ordre dans les secteurs et garantir la paix sociale.
On a été toujours partenaires.
Nous avons toujours été des partenaires pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations parce que le transport est un levier important du fonctionnement de la ville. Nous sommes nombreux à nous déplacer et la majeure partie d'entre nous recourons au transport en commun. Donc, c'est un levier que nous ne pouvons pas laisser en désordre. Nous comptons vraiment sur votre collaboration. Je pense que vous amènerez de bonnes idées pour que nous puissions, au finish, avoir une bonne grille tarifaire qui va refléter la bourse de toutes les Quinoises et les Quinois.
Daniel Bumba a par ailleurs déploré les mauvaises habitudes de certains chauffeurs qui s'adonnent au phénomène de mi-terrain en fractionnant les itinéraires. Il a annoncé des mesures contraignantes pour mettre définitivement fin à cette spéculation. Daniel Bumba a aussi ordonné l'affichage obligatoire des itinéraires de chaque véhicule afin d'éviter le demi-terrain. Il promet un contrôle rigoureux pour faire respecter cette mesure.
Des maisons écroulées et de nombreuses personnes dont les enfants sans abri, ça se passe à Luena, territoire de Bukama, dont la province du Olomami. C'est à la suite d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur cette entité samedi dernier. La société civile locale alerte et lance un cri de détresse en faveur de ces sinistrés qui sont exposés à des intempéries. D'autres détails avec Darik Mouema Kalonda, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Luena, joint par Jean Gandou.
La commune de Luena a enregistré plusieurs dégâts matériels, entre autres 87 maisons d'habitation, un centre de santé et trois églises ont été écroulées suite à la forte pluie et vent violent du 11 octobre 2025. Quelques personnes ont été victimes de blessures, dont une fille de 12 ans a connu une fracture à la jambe gauche. Les quartiers les plus touchés, Kamanda, Kimba et Kabioula. Les sinistrés vivent à la belle étoile. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement national, provincial et aux partenaires de pouvoir assister aux victimes.
Dans la province du Maniema, la population, les autorités ainsi que les humanitaires sont appelés à prévenir les risques de catastrophe au lieu de penser à la réponse. Cet appel est lancé par l'ONG Caritas Développement Kindu. C'était à l'occasion de la journée mondiale de réduction des risques de catastrophe célébrée le 13 octobre de chaque année. Caritas procède à une sensibilisation publique pour conscientiser les communautés à la réduction des risques de catastrophe. On écoute à ces sujets François Milabio, chargé des projets à la Caritas Développement Kindu. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Chaque le 13 octobre, le monde entier célèbre la journée internationale de réduction des risques de catastrophes. Et étant donné qu'il y a beaucoup de risques de catastrophes que nous connaissons dans la province du Maniema, plus particulièrement à Kindu, nous nous alignons à cela pour sensibiliser les gens et les autorités et les gens des médias et les organisations humanitaires à s'y mettre, à prendre conscience à ce que nous devons plus nous atteler sur la réduction des catastrophes qu'assister les gens qui sont déjà victimes. Simplement parce que d'abord, dans le monde, il n'y a plus d'argent pour financer la réponse. Et puis, dans les différents budgets, il n'y a plus, les gens ne se mettent plus à mettre la réduction des risques de catastrophe. C'est-à-dire, en un certain moment, prévenir les risques de catastrophe n'est plus dans les idées des gens, dans la conviction des gens. Ainsi, nous voulons assez que tout le monde, et à partir du gouvernement et tout le monde, toute la population, sache que nous devons prévenir. Pas seulement nous devons, nous pouvons aussi prévenir et réduire les catastrophes au lieu d'être victimes toujours de ces catastrophes.
Et aujourd'hui, mercredi 15 octobre, c'est la journée mondiale de la canne blanche dédiée à la sensibilisation sur l'autonomie et le droit des personnes aveugles ou malvoyantes. Symbole d'indépendance et de sécurité, la canne blanche aide les personnes déficientes visuelles dans leurs déplacements. Mais à Kananga, ce rôle est souvent tenu par des enfants qui accompagnent les aveugles dans la mendicité, les privant ainsi d'école et compromettant leur avenir. Suivez ce reportage signé André Katende.
Ces enfants qui accompagnent le malvoyant ont entre 8 et 6 ans. Dans la plupart des cas, il s'agit des enfants ou petits-enfants des aveugles. Toute la journée, ils les conduisent dans les rues et demandent de l'aide à leur place. Selon Grégoire Kazadi Kantou, président provincial du Centre d'encadrement, réhabilitation et intégration des aveugles au Kassai, Seria Consigle, cette situation est due à la vulnérabilité des parents ou tuteurs aveugles. Ces derniers n'ont pas le moyen de subvenir à leurs besoins, encore moins d'envoyer leurs enfants à l'école.
Nous, on n'encourage pas cela, mais devant l'impossible, nul n'est tenu. Ils sont obligés de le faire par manque de moyens.
Ces enfants qui passent leur journée à accompagner les aveugles ne vont pas à l'école. Pour la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, Lisadel, cette situation compromet leur avenir. Jean-Malice Lungala, coordonnateur provincial de la Lisadel, appelle le gouvernement congolais à prendre en charge les aveugles pour permettre à ses enfants de retrouver les bancs de l'école.
L'État congolais devrait mettre en place une politique de prendre ses aveugles en charge. Et cela pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Puisque ces enfants qui accompagnent ces aveugles, leur vie est en danger.
La Lisadel souligne qu'au-delà de la scolarité, ces enfants sont également exposés à d'autres dangers, notamment les accidents des routes. Kananga, André Katindinga Lamouloumé, Radio Kapi.
Actualité internationale.
À Madagascar, les militaires prennent le pouvoir après la destitution du président par l'Assemblée. L'Assemblée nationale malgache a donc voté la destitution du président Andry Rajoelina à une large majorité, 130 sur 163 députés, hier mardi. Dans un communiqué publié un peu plus tard, la Haute Cour constitutionnelle a, elle, invité le colonel Michael Randrianirina à exercer les fonctions de chef de l'État. La présidence de Madagascar dénonce de son côté une tentative de coup d'État.
L'invité.
Comme annoncé, l'invité de la rédaction est Grégoire Kazadi Kantou, président provincial du Centre d'encadrement de réhabilitation et intégration des aveugles au Kassai Syriac. Il revient sur la situation des aveugles et des malvoyants du Kassai central à l'occasion de la journée de la canne blanche dédiée aux droits des aveugles. Grégoire Kazadi Kantou s'entretient avec André Katende.
Monsieur Grégoire Kazadi Kantou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle situation traverse les aveugles au Kassai central?
Ici, dans le Kassai central, quand on voit l'état des lieux de cette catégorie d'handicapés, est vraiment déplorable. L'handicap visuel, moi je peux dire que c'est l'handicap le plus fatal, parce que quand vous ne voyez rien, donc il est difficile de faire quoi que ce soit. La situation que traverse la personne à déficience visuelle de la province du Kassai central, ils sont abandonnés à leur triste sort. Sans l'encadrement de cette structure soutenue par notre potentiel partenaire qui est Abdon et Tina, on n'allait pas parler de cette catégorie de personnes dans notre province, disons, sur l'espace Grand Kassai en général. Parce que c'est depuis 2006 que cette personne a commencé à soutenir cette catégorie de personnes. Et c'est là que nous nous sommes organisés dans un centre où nous encadrons des jeunes gens, des personnes adultes à déficience visuelle dans le cadre de la formation en écriture braille intégrale mobilité et orientation. Parce que comme vous le savez, ils ont du mal à fréquenter les écoles où des personnes voyantes fréquentent. Et ça leur permet de lire et d'écrire et de devenir aussi utile dans la société. Le malheur en eux que c'est toute une charge réservée à une seule personne.
Pour être concret, quelles sont les difficultés auxquelles font face les non-voyants en province?
Les difficultés sont énormes. D'abord, ils sont abandonnés à leur triste sort. Les pouvoirs publics que nous avons essayé de marcher de gauche à droite, on n'a jamais obtenu un gain de cause.
Parlons de l'éducation des aveugles au Kassai central. Est-ce qu'il y a des écoles ou centres d'apprentissage publics?
Il n'y en a pas. Sur l'espace Kassai, il n'y en a pas et ça n'a jamais existé.
Certains aveugles utilisent les enfants pour les accompagner pendant qu'ils sont en train de demander de l'aumône. Et dans la plupart des cas, ces enfants ne vont pas à l'école et leur avenir est hypothéqué. Que pensez-vous de cette situation?
Et comme vous le savez, nous, on n'encourage pas cela. Et notre but, c'est combattre des mendicités où la personne à déficience visuelle sont en train de déambuler avec les enfants à côté, sur la place publique, au marché, au magasin, un peu partout là, en train de commander. Mais devant l'impossible, nul n'est tenu. On dit parfois, un ventre affamé n'a point d'oreille. Ils sont obligés de le faire par manque de moyens. Et il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent même soutenir ces enfants-là pour aller à l'école. Et maintenant, quand nous leur demandons pourquoi vous faites ça, ils disent que non, voilà, d'abord, on n'est pas soutenu, on n'a pas de moyens. Et quand on se promène comme ça avec ces enfants à nos côtés pour nous aider, c'est par là qu'on peut trouver tant soit peu un petit rien à mettre sous la dent. Nous avons lancé autant de fois l'appel au pouvoir public enfin d'éradiquer cette situation. Ça n'a pas tenu. Il y a la gratuité dans l'école primaire, ils peuvent aller. Mais les objets classiques, les uniformes et autres, ça pose problème. Et comment ils peuvent aussi vivre pour avoir quelque chose à mettre sous la dent avant de partir à l'école? Ils ont du mal à voir ça. Et voilà, si on est en mesure de résoudre ce genre de problème, les enfants peuvent facilement aller à l'école.
Monsieur Grégoire Kazadikantou, nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Il a été coordonné par Polly Mousalia et mis en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci de l'avoir suivi et de le réécouter sur notre site internet radiokapi.net.